Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et au programme aujourd'hui, le Yémen avec une solution en vue.
Et peut-être aussi le rire des enfants quelques mois, avec ses premières discussions directes en Suède entre les Houthis et le gouvernement du Yémen soutenu par la coalition du Golfe après plus de 4 ans de guerre. Pas beaucoup d'optimisme, mais de grandes ambitions, pour paraphraser exactement les mots de Antonio Guterres de l'ONU. Bonjour Franck Mermier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes anthropologue, bien sûr, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Yémen. Alors, opportunité unique, ça c'est ce qu'a dit le médiateur de l'ONU, Martin Griffiths. C'est vrai que ça n'était pas arrivé depuis 2016, des discussions, voire des pourparlers, même si c'est pas le mot qui est utilisé. Et rien qu'arriver à réunir matériellement les représentants du gouvernement et les représentants houthis, c'est déjà un défi quand même.
Oui, c'est un gros défi, puisqu'on se rappelle qu'au mois de septembre donc de cette année... Des négociations auraient dû avoir lieu à Genève et qu'elles n'ont pas pu se tenir, notamment en raison de la crainte des Houthis, donc de la partie rebelle, de ne pas pouvoir revenir à Sanaa. Donc aujourd'hui, il a fallu évidemment que Martin Griffiths leur apporte des garanties et aussi qu'il y ait certaines mesures apaisantes pour que les négociations puissent se faire dans de bonnes conditions. Et donc c'est pour cela que, par exemple, 50 blessés rebelles ont pu aller à Mascate se faire soigner.
Oui, ce qu'ils appellent les mesures de confiance. Et confiance, d'ailleurs, Martin Griffiths est venu de Sanaa jusque en Suède avec les Houthis dans l'avion, je crois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, pour une fois, on peut avoir l'impression, mais vous allez dire, que les étoiles un peu diplomatiques et de terrain sont bien alignées. D'abord, l'émissaire Martin Griffiths, qui est le troisième, on pourra en dire un mot. Et puis, de nouvelles limites, entre guillemets, aux belligérants. C'est l'affaire Khashoggi pour l'Arabie Saoudite. Et pour les Houthis, c'est qu'avec Hodeïda, ils sont peut-être à un maximum de progression territoriale.
Alors, toutes les forces internationales, que ce soit l'Iran qui soutient les Houthis ou les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays occidentaux, ont fait pression sur leurs alliés régionaux, c'est-à-dire essentiellement l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, pour le cas du Yémen, pour que les Houthis pour ce qui concerne l'Iran, pour qu'ils acceptent, en fait, que ces pourparlers se tiennent à côté de Stockholm, en Suède. Pourquoi ? Parce que, effectivement, des pressions sont devenues plus importantes après le meurtre de l'affaire Khashoggi. Et puis, il y a aussi, pour chacun des belligérants, aussi bien les Houthis que le gouvernement Hadi, donc le gouvernement proclamé et reconnu internationalement, il y a aussi le fait que, par rapport à l'ampleur de la catastrophe humanitaire, aux pressions, etc., même à leur opinion publique, même si elle est très lâche, il fallait évidemment faire un geste, ne pas apparaître aussi comme voulant absolument continuer la guerre. Mais cela ne signifie pas que sur le terrain, les combats ont complètement cessé. Il faut bien voir que différents fronts soient actifs. Il n'y a pas que la bataille de Hodeïda qui est en cours.
Et vendredi dernier, il y avait encore des combats à Hodeïda qui étaient reportés. Encore un mot sur Martin Griffiths. Donc troisième émissaire, on le disait, peut-être mieux préparé pour cette mission que les deux autres. Lui ne vient pas forcément de l'humanitaire, mais a dirigé un grand centre justement de négociation de paix à Genève. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui ? C'est vrai qu'il s'est activé beaucoup ces dernières semaines.
Alors il a fallu d'abord qu'il gagne la confiance des Houthis. Donc c'est pour cela que par exemple, il s'est engagé à ce qu'un avion des Nations Unies vienne transporter les blessés. C'est un avion ensuite koweïtien donc qui est venu pour transporter la délégation Houthis avec Martin Griffiths à Stockholm. Donc il a réussi finalement à donner des garanties aux Houthis. Mais dans le même temps, il prête le flanc aussi aux critiques de la part du camp gouvernemental qui l'accuse parfois d'être trop justement proche des Houthis. Mais il fallait bien qu'il y ait des concessions de part et d'autre pour que ces négociations se tiennent. Donc il arrive à trouver certainement un juste milieu, en tout cas pour l'instant, puisque ça c'est vraiment une grande réussite, ces négociations. Et puis, il faut aussi pouvoir parler avec les différents acteurs régionaux, et notamment Oman, qui joue un rôle important dans ces négociations, le Koweït, et puis aussi, évidemment, l'Arabie Saoudite et les Émirats.
Oui, et justement, c'est ce qu'avait dit un des membres de la délégation Houthis. Nous sommes venus ici avec l'intention de faire réussir ces consultations, mais ça ne dépend pas de Khaled Al-Yamani, ministre des Affaires étrangères du gouvernement. Ça dépend de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et des États-Unis. Est-ce que ça veut dire que le format des négociations... Et pas forcément adéquat, ou disons que c'est un premier format.
En fait, chacun des protagonistes met des limites à ces négociations. Il faut bien voir que le gouvernement Hadi, donc le gouvernement yéménite, met la barre très très haut en demandant que soit appliquée la résolution des Nations Unies 2216 d'avril 2015, qui demande le retrait des Houthis de la capitale et la livraison de leurs armes. Évidemment, une mesure totalement irréaliste dans les circonstances actuelles.
Ils ont déjà demandé le retrait intégral de Hodeïda, là, pour l'instant.
Et en plus de Hodeïda. Donc ils demandent, effectivement, de la même façon, les Houthis, eux, demandent aussi, et là je pense que ça pourrait être mis en débat dans les discussions, le fait qu'il y ait une réouverture de l'aéroport de Sanaa, parce qu'il faut savoir que l'aéroport est fermé sauf autorisation de l'Arabie Saoudite, et puis une solution qui soit donnée à la question du port de Hodeïda. Éventuellement, il serait peut-être pour une neutralisation du port, en remettant le port finalement à l'administration onusienne, en contrepartie du retrait de leurs troupes, ou en tout cas, d'une neutralisation du port et de la ville. Mais déjà, dès le départ, il y aura en tout cas des négociations sur le volet humanitaire, et notamment sur l'échange de prisonniers. On parle de plus de 3 500 prisonniers qui vont être échangés des deux côtés, notamment des combattants, et notamment aussi des personnalités militaires et politiques des deux bords. Donc ça pourrait être ça, finalement, qui permettrait une atmosphère beaucoup plus sereine.
Oui, donc la volonté de faire progresser le dossier, entre guillemets, humanitaire. Il y avait Martin Griffiths qui parlait même d'un programme de vaccination des enfants, peut-être, s'ils arrivaient à accéder à ce port. Justement, au-delà de ces mesures de confiance, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces négociations actuelles? En 2016, je crois qu'il y avait eu 108 jours de négociations, finalement un échec. Là, quelle forme ça peut prendre, puisque ça commence vraiment aujourd'hui?
Alors, normalement, ça devrait prendre une semaine pour le volet concret de ces négociations. Il va de soi qu'il sera très très difficile d'arriver à dépasser, durant cette première semaine, le volet, disons, très pratique des négociations et des gestes de bonne volonté, comme l'échange de prisonniers, éventuellement, mais ça, ce serait véritablement vraiment une grande réussite aussi, des mesures concernant la banque centrale et le paiement des fonctionnaires, parce qu'il faut savoir qu'il y a des centaines de milliers de fonctionnaires yéménites qui n'ont pas été payés depuis 2 ans. Il y a donc peut-être éventuellement la levée du blocus sur l'aéroport de Sanaa, ce qui serait aussi une bonne nouvelle pour l'acheminement des vivres et de l'aide humanitaire. Mais dans le même temps, il y a aussi un gros problème axial, qui est en fait la reconnaissance de la légitimité des deux parties qui se disputent le pouvoir. C'est-à-dire que le président Hadi, lui, est campé sur sa légitimité liée à son élection en 2012, mais c'était une élection transitoire de 2 ans. Quant aux Houthistes, ils se proclament, eux, le véritable pouvoir légitime du Yémen. Donc c'est sur cette question-là que va certainement achoper les pourparlers au bout d'une semaine.
Et avec cela, vous l'avez souligné dans beaucoup d'articles, qu'il y a des divisions supplémentaires entraînées par la guerre. Alors justement, à quel point Hadi est-il légitime, et notamment dans le sud aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il s'est affronté notamment à ce qu'on appelle le conseil de transition. Enfin, il s'est affronté, ça a été tendu au début de l'année, il a été encerclé par ses forces, et la situation a été réglée par une médiation, en fait, Arabie Saoudite.
Exactement. Alors, le conseil de transition sudiste, donc qui représente le mouvement sudiste au sud du Yémen, a été créé en 2017 grâce à l'aide, au soutien des Émirats Arabes Unis, qui finance ce conseil national, qui finance des milices aussi au sud, qui aide aussi des milices salafistes au nord. Et donc, finalement, le gouvernement Hadi, lui, il est aussi contesté par une partie des forces politiques qui sont censées être son soutien, et notamment dans la partie sud. Il faut savoir que dans la bataille de Hodeïda, parmi les forces gouvernementales, il y a des unités sudistes, il y a des unités aussi qui sont sous le commandement du neveu de l'ex-président Saler, qui a été tué justement l'année dernière. Et donc toutes ces forces-là, finalement, reconnaissent de façon extrêmement lâche la légitimité du président Hadi. D'ailleurs, même le vice-président du conseil de transition sudiste, le salafiste Hani Ben Brek, donc un sudiste du Yémen, a déclaré que le départ de Hadi pourrait être une condition pour la paix. Donc on voit à quel point le pouvoir même de Hadi est menacé dans son propre fief.
Et ce qui veut dire, dernière chose, qu'au-delà de Hadi, si jamais il y a des négociations futur, ça risque d'être très compliqué au niveau territorial. C'était déjà ça, d'ailleurs, qui avait un peu coincé en 2012 avec les Houthis. Il y avait un projet de constitution qui les enclavait complètement.
Exactement, c'est-à-dire à la fin du dialogue national, le Yémen devait être divisé en 6 régions, et la région qui représentait un peu le fief des Houthis n'avait pas de débouché sur la mer, d'où finalement aujourd'hui aussi leur acharnement à combattre pour Hodeïda, hein, puisque c'était le seul débouché sur la mer, et aussi ils étaient enclavés et sans ressources. Donc ce projet de Yémen fédéral a été refusé par les Houthis, mais on voit bien que dans le futur, ça pourrait être aussi un point aussi de dispute par rapport aux différentes forces politiques pour savoir s'il y aura reconstitution du Sud au Yémen. Mais ce Sud même, lui-même, est divisé en plusieurs entités géographiques et territoriales, notamment avec l'Est du Sud, le Hadramout, qui concentre toutes les réserves de pétrole, et où on trouve aussi un mouvement autonomiste.
Et lieu de concurrence entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, on en reparlera. Merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui, Franck Mermier, anthropologue, directeur de recherche au CNRS, et on renverra votre livre sur le site, ce livre qui vient d'être publié, Yémen, écrire la guerre, des textes de Yéménites que vous avez traduit en partie.